Charles tient sa cour. Charles tient sa cour. Charles tient sa cour à Paris. Girard de Roussillon et Aimé de Dordogne sont venus, obéissant à l'appel de l'empereur, mais leurs frères, Don de Nanteuil et Beuve d'Aigremont, sont restés chez eux. L'empereur se plaint de cette rébellion. Aimé prend la défense de son frère, ce qui exaspère l'empereur, qui le chasse de sa cour. Le duc part avec ses vassaux. Sur le conseil du sage du Cnem, on décide d'envoyer à Beuve d'Aigrefion un messager qui l'invitera à venir rendre hommage à l'empereur. Enguerrand est chargé de cette mission. Charles rappelle comment il a vaincu Don de la Meuse et Girard de Roussillon. Enguerrand et sa suite arrivent à Aigremont, pour qu'ils admirent la richesse et la force. Le messager invite le duc à venir à Paris, prendre le tribut de ses terres, du pied et en armes, ajoutant ainsi aux exigences exprimées plus haut. Beuve fait attaquer les royaux et tue Enguerrand de sa propre main. Les compagnons d'Enguerrand rapportent son corps. Même réconforte l'empereur et conseille d'envoyer un second messager. Il y aura 400 chevaliers pour Bastre. Personne ne s'offre pour ce voyage périlleux. Et sur l'avis de Nem, on désigne Lothier, fils du roi. Beuve est averti par un espion. Quand Lothier arrive à Aigremont, le duc est à table, au milieu de ses vassaux qu'il avait convoqués. La duchesse lui recommande de bien accueillir les messagers de Charles, qui est son sire Lige. Et après Dame Dieu, qui dote à bailler. Mais Beuve la renvoie à ses affaires. Rien ne vaut plus laisse, princesse de Chasteaux-Weyé. Princesse de Soltam, ce est votre métier. Le bien métier, qui est de l'esprit d'acier. Lothier, en présence du bassin de Rebelle, tient un discours insultant. Il menace Beuve de le tuer. Il déjà étiré l'épée, mais un de ses compagnons l'a fait rentrer dans le fond. Beuve répond avec une gueule. Noyer lui rappelle ses devoirs de vassal, le meurtre d'Enguerrand, le menace de le traîner à Paris pour le faire juger et prendre. Le duc ordonne à ses chevaliers de saisir le messager. Sa mort a apporté. J'en aurai rançon. Après un combat acharné auquel prennent part les gens de la cité, avec leurs haches et massues, les royaux ont le dessus. Noyer attaque Beuve. Le renverse, mais relevé par ses hommes, le duc le frappe à son tour et le tue. Beuve ordonne au royaume de quitter sa ville et de porter à l'empereur son vaillant fils Lothier. Je n'ai d'autre tribut que lui doit envoyer. Savary lui répond que nul homme ne pourra le sauver de la mort. Les messagers repartent pour la France, surtout le chemin en partage leur vol. l'un d'eux prend les devants pour prévenir l'empereur. Celui-ci se désespère, mais Neim rend courage à aller à la rencontre des restes de son enfant. Charles pleure sur le corps de Loyer. Tous pleurent comme lui. On lui dit d'ensevelir sans retard Loyer à Saint-Germain-des-Prés, de rassembler son empire, de tirer vengeance du meurtrier. Le funérail est fait. Le deuil dure 7 jours. Charles mande ses vassaux, envahit et dévaste les terres de Beau. Celui-ci se hâte de réclamer le secours de ses frères Gérard, Damien et Aimé. Gérard de Roussillon et Don de Montagne viennent camper sous Aigle. La bataille s'engage entre les deux armées. Galeran de Bouillon, Ogier le Danois, Richard de Normandie, on les coupe. Combat particulier avec Beuve et ses frères. Charlemagne et Beuve échangent des coups égaux, mais sont séparés par les fidèles de l'empereur. Richard de Normandie blesse gravement Gérard de Roussillon, qui se retire de la mêlée avec ses frères. Charles, sur leur demande, leur accorde une trêve. Gérard dit à ses frères qu'ils ont tort envers l'empereur. Geste de nos trois, sire. On doit tâcher de s'accorder avec lui. S'il refuse, à lui, nous combattrons en selle très verdoyante. Fouque, neveu de Gérard, demande au roi de pardonner à Beuve qui lui rendra hommage et ira, s'il le fait, en pèlerinage au Saint-Sépulcre. Sur l'avis de ses barons, Charles pardonne. Le duc Gérard et ses frères, Tonnupier et Enlange, se rendent au camp. Leurs hommes les suivent. Les quatre ducs s'agenouillent devant l'empereur et promettent d'être des vassaux fidèles. Charles les relève et impose, pour seule condition, qu'à la prochaine ascension, ils viendront le servir à Paris, sa maison. Si bien que le verront mi-prince et mi-baron. Chacun rentre dans son pays. aimons en France autant linage ni dame d'Aix ni Malon. Ce fut Grip d'Hautefeuille et son filial Guénénois. Béroger et Atré et Herbie de Lyon. Antiomès et Félon. Fouquès de Maurienne. C'est la famille des traîtres qui interviendra dans plusieurs circonstances de l'histoire des Picémons et qui, dès lors, constituée en une geste distincte, aura un rôle dans tout le développement de l'épopée. Les félons blâment Charles d'être si bon pour celui qui a tué son fils. Si le roi veut se venger de lui, ils sont prêts à l'aider. Charles finit par céder et promet de les récompenser. Dans le bois de Floridon, ils attendent Beuve, Fouquet de Morillon blesse et désarçonne le dieu. Griffon d'Hautefeuille lui tranche la tête. Des 300 chevaliers de Beuve, 10 seulement survivaient. Ils portent le corps à Aigremont. La duchesse se désespère. On la calme et on ensevelit les restes de Beuve. Cependant, les traîtres sont revenus à Paris. Griffon remet au roi la tête de son ennemi. Charles répond. Amis, se disent les rois, si ta molle te belle présent. La guerre qui suit, ce guet-apens, et la réconciliation de Charles et des frères de Beuve. Intervient bien assez tôt. Les Picémons à la cour. Mort de Berlioz. Les Picémons dans les Ardennes. M. de Dordogne a conduit à la cour ses quatre fils Alain, Renaud, Guichard, Richard. De grandes fêtes étaient données à l'occasion de la Pentecôte. M. présente ses trois fils au roi. Celui-ci baise Renaud sur la bouche et promet de lui faire tous trois ou quatre chevaliers à la nativité. Mais la gentille façon A de Renaud lui plaît et tout est réglé pour que la cérémonie ait lieu le lendemain. On les arme et on donne à Renaud un cheval merveilleux. Cheval y aimait, quitos estois faes. Bayard à boire un an. Charles leur donne l'accolade, puis fait dresser une quintaine. Renaud, à ce jeu, l'emporte sur tous, et Charles promet de le faire sous son échelle. Le jour suivant, le roi est servi à table par les Picémons. Après le repas, on se divertit dans la salle, puis on joue aux échecs. Berthollet, neveu du roi, et Renaud jouent ensemble. Une querelle s'élève entre eux. Berthollet insulte Renaud et lui donne un tel soufflet que le sang coule. Renaud va se plaindre au roi, qui le rebute. Malvé garçon, croit avoir Renaud une clé. Renaud rappelle la mort de son oncle, Beuve d'Aigremont. De lui, on demande roi. Par celle qui nous cria, le roi est été frappé de son corps. À la figure, si que il s'en perna enfin la terre qu'on a. Renaud s'en va, rencontre Berthollet, saisit l'échiquier et d'un coup étant mort le neveu de l'empereur. Après un combat brièvement monté, les Picémons ont pu s'échapper. Ils se rendent à Dordogne. Leur mère leur conseille de se réfugier ailleurs. Ils partent avec des provisions et 300 chevaliers. Dans l'Ardenne, sur les bords de la Meuse, ils construisent un château, Montessor. Pendant 7 ans, on les oublie, mais Charles finit par savoir où ils sont. L'armée est réunie à Laon, et de là, on part pour l'Ardenne. On passe sans accident les Espaus, défilé dangereux, car Fay y converse, et on en découvre Montessor. Richard attaque l'armée de Charles et s'empare du convoi. Ogier poursuit vainement Richard. L'empereur jure qu'il châtiera les fils des morts. L'armée campe le long de la rivière. Sur le conseil de Nem, on le charge d'aller avec Ogier réclamer Guichard, qui est accusé d'avoir tué Loïs, non plus Loyer. Fils de l'empereur, Renaud ne veut rien entendre. Il ordonne une sortie et rencontre son père à qui il reproche d'être avec les ennemis de ses enfants. Après un long combat, les fils et morts sont forcés de rentrer dans le château. Charles trouve que le siège dure trop. nerveuse de Lausanne promet de s'emparer de la place et de rendre Renaud prisonnier à l'empereur. Le traître se présente à Renaud comme un de ses partisans, mais la nuit venue, il va baisser le pont-levis et tirer les verrous de la porte. 100 chevaliers entrent dans Montessor. Les fils Aymon s'aperçoivent de la trahison, s'arment à la hâte avec 30 chevaliers. Les autres étaient restés dans le bourg, Carius et les siens avaient envahi, tuant et brûlant. Les écuyers défendent le souterrain contre Hervius. Renaud et ses frères le rejoignent. Hervius et 9 des siens ont pris. Ces derniers sont pendus, et à côté est placée l'enseigne qu'ils portaient. Helvénus est écartelé et les débris de son corps et ont réduit en cendres. Charles est très affligé de l'échec honteux de l'entreprise. Mais le château et le bourg ne sont plus habitables, tous les approvisionnements sont détruits. Les fils Aymon abandonnent Montessior et avec 600 chevaliers traversent le camp ennemi. Charles renonce promptement à les poursuivre et campe près de la rivière. Les fils Aymon ont passé l'eau, se reposent une nuit et, le lendemain, traversent les Espaos et entrent en Ardennes. Charles donne congé à ses hommes et revient à Paris. Et le duc Ames, arrivé à la fontaine d'où ses fils sont partis, entre dans la forêt et rencontre ses fils endormis près d'un rocher. Pris entre l'amour paternel et son devoir envers l'empereur, il les fait défier par deux de ses chevaliers. Renaud lui reproche sa dureté. Aimé répond qu'ils n'ont qu'à combattre ou à se faire ermite. Réduit à 50, Renaud et les siens s'enfuient. Le chevalier d'Alard est tué. Renaud prend son frère en croupe sur Bayard. Le veneur de Charles, Hermann Croix, est tué. Après une défense héroïque, Renaud et les survivants de sa troupe s'enfuient. Aimé pleure sur sa destinée qui l'oblige à combattre ses enfants. Il emporte à Paris le corps d'Hermann Croix. Mais Charles l'ayant mal accueilli, le duo s'en bat à Dordogne. Les fils Aymon sont dans l'Ardenne. Il ne leur reste plus que 3 compagnons et 4 chevaux. Pour eux 7. Ils vivent de la chasse ou en pillant les terres voisines, mais sans abri, ils éprouvent de grandes souffrances, surtout pendant l'hiver. Le beau temps venu, ils quittent la forêt et partent pour Dordogne. Nul ne les y reconnaît, tant ils étaient changés. Leur mère, après leur avoir donné l'hospitalité, aperçoit une cicatrice au front de Renaud, trace d'une blessure qu'il avait eue étant enfant. Elle lui demande s'il est son fils. Renaud éclate en larmes. La duchesse le voit, ne le va plus d'autant. Pleurant, bras levés, va baiser son enfant. Et puis, tresse-toi les autres 100 fois de maintenant. La duchesse fait monter leurs 3 compagnons et un repas leur est servi. Aimé revient de la chasse et demande qui sont ces hommes.